Bonjour à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho, ravi d'être en direct et en public des 23e rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci d'être venus si nombreux, affamés, bello et pesté. Libéra nos domine, de la fin de la guerre et de la peste, délivre-nous Seigneur. Cette prière que l'on murmure au XIVe siècle résume en quelques mots les fléaux qui frappent alors le royaume de France. C'est l'époque des grandes catastrophes, miroir de la crise économique et sociale qui traverse le Moyen-Âge tardif. Une époque de crise, oui, mais pas de déclin, car on aurait tort de l'oublier, les XIVe et XVe siècles donnent aussi naissance à des progrès. Le pouvoir royal se consolide et on assiste même à l'émergence des prémices de la santé publique. Pour parler de l'économie du désastre au Moyen-Âge, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claude Gauvard, professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, Marilyn Nicou, professeur à l'université d'Avignon, spécialiste de l'histoire de la médecine, et Corinne Leveleux, professeur d'histoire du droit et des institutions à l'université d'Orléans. Je dis donc que les années de la fructueuse incarnation du Fils de Dieu atteignaient déjà le nombre de 1348, lorsque dans la remarquable cité de Florence, belle au-dessus de toutes les autres cités d'Italie, parvint la mortifère pestilence, qui par l'opération des corps célestes ou à cause de nos œuvres iniques, avait été déchaînée sur les mortels par la juste colère de Dieu et pour notre châtiment. Quelques années auparavant, elle s'était déclarée dans les pays orientaux, où elle avait enlevé une innombrable quantité de vivants, puis poursuivant sa marche d'un lieu à un autre sans jamais s'arrêter, elle s'était malheureusement étendue vers l'Occident. La science, ni aucune précaution humaine, ne prévalait contre elle. C'est en vain que par l'ordre de magistrats institués pour cela, la cité fut purgée d'une multitude d'immondices, qu'on défendit l'entrée à tout malade, et que de nombreux conseils furent donnés pour la conservation de la santé. C'est en vain qu'on organisa non pas une fois, mais à diverses reprises d'humbles prières publiques et des processions, et que d'autres supplications furent adressées à Dieu par les dévotes personnes. Quasi au commencement du printemps de ladite année, le fléau déploya ses douloureux effets dans toute leur horreur et s'affirma d'une prodigieuse façon.
Bonjour à toutes les trois. Un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez reconnu, je pense, la description de la peste par le poète Boccace, lu par Lietovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Un extrait du Décaméron, ce recueil de 100 nouvelles écrites au milieu du XIVe siècle. Alors Claude Gauvard, j'aimerais commencer avec vous. Que vous inspirent ces mots de Boccace décrivant la peste comme un châtiment de Dieu ?
Mais écoutez, ils sont très justes. C'est-à-dire que, très justes pour les gens du Moyen-Âge, je veux dire, ils reflètent parfaitement ce que vous pouvez penser ses contemporains et ce qu'il pensait lui-même. La peste est un fléau de Dieu. La peste est un phénomène mondial à l'échelon de la connaissance des médiévaux. Il parle surtout, bien sûr, de l'Europe, mais on sait qu'elle a été aussi propagée dans le nord de l'Afrique. Par ailleurs, il montre que les populations en face sont totalement désemparées. Elles ne savent pas expliquer le phénomène. Il répète plusieurs fois « en vain, en vain, en vain ». Fort heureusement, dit-il, il y a des hommes de science, mais personne, si vous voulez, ne peut arriver à arrêter ce fléau, dont la progression est très linéaire. On la voit effectivement se propager tous les 50 kilomètres, alors avec une vitesse effectivement moindre que de nos jours, parce que la vitesse de circulation est moins rapide, mais on voit bien qu'en une année, elle a gagné quand même l'Europe du Nord.
Bon. Ces mots peuvent faire écho à la réalité que l'on connaît aujourd'hui, selon vous, Marilyn Nicou ?
Alors oui et non, parce qu'il faut raison garder, je pense, quand on compare les pandémies du passé, et en particulier la pandémie de 1347-1353, avec la réalité que nous vivons aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a quelques similitudes dans les réponses. Je crois qu'en citant un mot d'Anne Rasmussen, personne n'aurait pensé que le mot de confinement ou de quarantaine serait le maître mot de l'année 2020. Donc effectivement, ce sont des mots qui ont existé, des pratiques, surtout politiques de contrôle qui ont été mises en œuvre à l'époque médiévale. Mais ensuite, rappelons quand même que même si l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui fait un certain nombre de morts et laisse des populations très, très affaiblies, il n'y a rien à voir entre la mortalité qu'ont connue les médiévaux et ce pendant 4 siècles avec la réalité que nous vivons aujourd'hui.
Claude Gauvard parlait d'impuissance, de rapidité de la contamination. Qu'est-ce que ce texte évoque à la spécialiste des institutions que vous êtes, Corinne Leveleux?
Eh ben, précisément, c'est le désarroi en fait des autorités. On sent des gens qui sont en prise avec effectivement un fléau qui les dépasse. Alors on a ici deux éléments qui peuvent apparaître un peu contradictoires. D'un côté, on a un discours qui est assez classique hein, quand un événement survient, qui est en fait un effort de comprendre, d'interprétation de l'événement, de savoir pourquoi il a eu lieu. Donc il y a j'appellerais un effort d'intelligibilité. Donc clairement, dans la perspective médiévale, c'est forcément lié à Dieu. Donc ça interroge par rapport à la relation que les hommes ont avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi est-ce que l'attitude que les hommes ont pu avoir ont provoqué la colère divine? Il est question de châtiment. Et puis d'un autre côté, on voit très bien l'échec de la science. Hein. Le mot science est prononcé dans le texte. On ne sait pas. Donc on essaye de comprendre, mais on ne sait pas. Et donc effectivement... La question qui va se poser aux autorités publiques, et qui se pose encore aujourd'hui aux autorités publiques, c'est d'agir en ne sachant pas, tout, en ne comprenant pas. Alors qu'ils sont requis d'agir, puisqu'on attend des autorités, je pense qu'on va y revenir plus en détail, qu'elles fassent quelque chose, puisqu'elles sont là pour nous protéger, mais les autorités n'ont pas la science pour les éclairer.
On va revenir en effet sur la lutte contre la peste noire et plus largement sur les catastrophes qui traversent ce Moyen-Âge tardif. Mais d'abord, ce qui nous a intéressé en tant qu'émission d'économie, c'est le fait que la peste noire de 1348, Claude Gauvard, a longtemps été rendue responsable par les historiens de la crise économique qui sévit en ces 13e, 14e siècle.
Oui, bien sûr. Il y a une donnée aussi sur laquelle il faut insister, c'est-à-dire que la peste noire, c'est 1348-1353, comme vient de le rappeler Marilyn Nicoux, mais il y a ensuite des répétitions de la peste. Tous les 10 ans à peu près, pour faire bref. Et après, à Paris, par exemple, la peste de 1362 a été aussi très importante. Hein. Et tout cela a duré jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. 1720 Marseille, 1771 Moscou. Donc on a un phénomène sur la longue durée avec des répétitions et le lien avec les crises économiques, évidemment, peut être mis en avant. Mais on a aussi des périodes de prospérité en même temps que ces pestes. Donc on ne peut pas tout expliquer par la démographie. Et par surtout une démographie liée à la peste. En ce qui concerne le royaume de France, les historiens ont montré, à travers des études monographiques de villes ou de régions, je pense à la Normandie et à Périgueux, qui sont deux exemples tout à fait bien connus, que la récession démographique a commencé avant la peste noire. Dès 1330, c'est-à-dire qu'on a une pointe d'expansion démographique qui est dans la continuité du XIIIe siècle, avec une surpopulation urbaine ou régionale ou rurale, une surpopulation qui fait que on est arrivé aux limites du mode de production et on a un reflux, c'est-à-dire des famines, des disettes et par conséquent des morts avant 1348. 1330 étant à peu près, si vous voulez, le point du basculement. Donc on ne peut pas tout attribuer à la peste noire. En ce qui concerne la France, on a aussi, à côté de ces famines à répétition, avec des chronologies différentes dans le nord et dans le sud du royaume, on a aussi la guerre. Alors la guerre décime les populations pas tant par les batailles qui engage finalement peu de monde, que par les conséquences de la guerre de siège qui se met en place à partir de 1360.
Alors il y a énormément de points que vous soulevez ici, Claude Govard, et peut-être qu'on peut s'arrêter en particulier sur ces famines, ou peut-être qu'il faut parler de disette. Est-ce que, c'est l'une des hypothèses, la dépression économique est liée, comme le pensent certains historiens, à cette grave crise frumentaire de 1315-1317?
Oui, le retournement de la conjoncture est débattu par les historiens. Et la chronologie n'est pas la même au nord et au midi, dans le midi. 1315, c'est la grande crise frumentaire du nord. À Ypres, par exemple, on a 10% de la population qui disparaît quand même. Bon, c'est quand même pas rien. Et pour le midi, c'est plutôt 1375, voyons que c'est plus tardif. Donc je pense qu'on peut pas être totalement systématique et dire le retournement de la conjoncture à... Mais on a quand même une tendance à la baisse des prix agricoles sur le long terme, accentuée dans le Royaume de France, je le répète, par la guerre.
Alors, au cours des 14 et 15e siècles, en effet, les famines touchent le nord de l'Europe comme le sud, et il n'est pas toujours possible d'importer du blé de l'étranger. Et une autre conséquence de la disette, c'est le fait que l'argent utilisé pour se nourrir n'est pas utilisé pour autre chose, qui provoque une crise de la consommation.
Alors, il y a une crise de la consommation, il y a des statuts urbains qui mettent en place des moyens policiers, on peut le dire, pour contrôler les boulangeries, par exemple, hein, pour contrôler le commerce des grains aussi, hein, et faire en sorte que les villes soient ravitaillées, sinon c'est l'émeute. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire quand même que la peste touche à ce moment-là davantage les pauvres que les riches. C'est la grande question. C'est pas du tout évident. Et finalement, d'une certaine façon, les forces productives plus que les jeunes et les vieux. Non, ça n'est pas évident.
Alors on va faire réagir Marilyn Nicou puis Corinne Leveleux sur cette question des liens entre peste noire et économie.
Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, comme vous le savez, d'économie. Donc, mais effectivement, les historiens ont tendance à montrer qu'il y a déjà dès la première partie du XIVe siècle un retournement, comme l'a dit Claude Govard, de conjoncture après deux siècles d'expansion et de croissance dans le monde occidental, aussi bien commercial, urbain qu'agricole, et que donc quelque part l'épidémie s'inscrit dans une phase de dépression, dont elle ne fait qu'accentuer finalement les effets par donc effectivement cette forte mortalité, par des formes d'inflation qui sont liées aussi à la cherté du grain, à une baisse également de la main d'œuvre qui fait qu'on produit moins, et en même temps une augmentation assez forte, d'après ce que j'ai pu voir, des salaires liés justement à la faiblesse de la main d'œuvre. Donc on a un contexte économique qui est de longue durée, mais qui est quelque part accentuée par ce phénomène de grande ampleur. Corinne Leveleux parlait tout à l'heure de l'effet. Je pense qu'on a du mal à imaginer. Je pense qu'on a vécu de manière très étonnante le confinement, parce qu'on ne s'attendait pas à vivre un confinement. Mais pour les populations du Moyen-Âge, même si elles sont beaucoup plus habituées, je pense, que nous, à la mort, à une mort familière, à une mort régulière, puisque l'espérance de vie n'a rien à voir avec l'espérance de vie actuelle, cette brutalité, en fait, cette brutalité de la pandémie, ce caractère inexorable a évidemment frappé et a amené aussi bien les gouvernants que les individus à réagir de diverses manières, à réagir avec effectivement la méconnaissance que l'on pouvait avoir, mais que nous avons aussi expérimenté dans la crise actuelle, c'est-à-dire que le temps de la science, le temps de la maladie, le temps du politique, le temps de l'économie ne sont pas les mêmes temporalités.
Ce qu'il faut bien comprendre, Corinne Leveleux, c'est que la crise prend des formes différentes selon les États en Europe, dans les villes italiennes que vous connaissez bien, je crois. Elle se traduit par exemple par des banqueroutes, mais ça peut prendre différentes formes.
Ah ben ça prend différentes formes, effectivement, selon le niveau de développement de l'économie. Ce qui est certain, c'est que, alors, ce qu'a dit Claude est effectivement avéré, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde plein au début du XIVe siècle, et on a effectivement un retournement de conjoncture à partir des années 1320-1330. Mais pour autant, faut vraiment prendre la mesure de ce qui se passe, c'est-à-dire en quelques années, on a entre 30 et 50% de la population européenne, alors pas absolument partout, mais enfin c'est quand même assez général, les zones qui ont été épargnées sont très rares, qui disparaît. Et donc évidemment c'est considérable, et ça ne peut pas ne pas avoir un impact sur l'économie. Ce sont des villages entiers qui sont abandonnés. Et dans certaines zones, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Angleterre, ces terrains ne seront pas reconquis. Donc en France, c'est un peu différent. En France, il y a une reprise qui a permis de retrouver une forme de présence humaine dans des villages qui avaient été dévastés par la peste. Mais il y a des pays où ce retour n'a pas eu lieu. Donc il y a une reconfiguration, y compris du paysage, qui est liée à l'épidémie. Il y a évidemment, on peut le concevoir, tous les circuits d'échange qui sont complètement désorganisés. Marilyn évoquait tout à l'heure les problèmes d'alimentation des villes, mais c'est lié aussi au transport, c'est-à-dire que voilà, on n'arrive plus à transporter les denrées, il y en a moins qui sont produites, et puis on a des... Donc c'est vraiment c'est une cassure incontestablement, hein, même. Enfin, je crois que là, on a du mal à imaginer ce qu'ont dû ressentir les médiévaux face à ce fléau, sa généralité, sa soudaineté. Hein.
Et c'est là que les autorités essayent de réagir justement en jouant peut-être sur la monnaie, sur les salaires, voilà, sur les prix du blé.
Tout à fait, en essayant de garantir l'approvisionnement. En essayant des choses très, mais aussi, enfin des choses, enfin peut-être encore plus triviales, hein, sur la, par exemple les inhumations, sur la sécurisation, en essayant d'assainir un peu les espaces. Donc il y a une espèce de reprise en main de la part des autorités pour encore une fois faire quelque chose, mais même si, en tout cas dans un premier temps, ça apparaît assez dérisoire compte tenu de l'importance du fléau.
Les notaires n'ont jamais fait autant d'affaires en quelques jours. Mais ce sont les bien portants qui se pressent pour rédiger leur testament. Les malades en feraient bien autant, mais le notaire pense à survivre, il ne les reçoit plus.
Et cela dure. Il n'est pas de ville, me dit-on, où cette peste n'ait tué pendant 4 ou 6 mois.
Les lettrés qui sont nombreux, Saint-Père, à votre cour, évoquent l'apocalypse. Avec la guerre qui ne cesse... et que vous ne parvenez pas à empêcher entre des princes chrétiens qui feraient mieux de penser à la croisade, avec la famine qui revient si souvent depuis 50 ans, c'est maintenant la peste. Pensez aux anges exterminateurs, aux cavaliers de l'Apocalypse, ce n'est pas solliciter l'Écriture. Nous y sommes. Et que faire si c'est la fin du monde?
Il y a 650 ans, la peste, extrait d'une fiction radiophonique diffusée en 1998 sur France Inter avec l'acteur Jean Taupart. Les 14e et 15e siècles connaissent plusieurs épidémies de différentes maladies, mais elles sont alors toutes qualifiées de peste, Marilyn Nicou?
Alors, à cette époque, oui, puisque de toute façon, le terme de peste ou de pestilence renvoie de manière générique, en fait, à ce qu'on appellerait des maladies épidémiques fortement létales, selon les définitions qu'en donnaient les auteurs anciens, à commencer par Galien. Donc, en fait, le terme de pestilence est un terme très général. Après, vous avez cité en introduction un passage de Boccace, il y en a d'autres tout aussi célèbres, où il décrit les fameux bubons, donc les médiévaux, non seulement du reste des chroniqueurs ou des auteurs comme Boccace, mais également des médecins. Je pense en particulier aussi à Guy de Chaulia, qui était chirurgien des papes et qui a vécu 2 fois la peste en Avignon. Il en a d'ailleurs du reste été malade lui-même, qui dans sa grande chirurgie décrit aussi assez clairement les signes de la maladie pestilentielle, donc les signes buboniques. Donc les médecins et les autorités ont certes conscience que c'est un mal nouveau, hein, quelque chose dont on n'a pas conservé la mémoire d'homme, même s'il a existé un autre épisode de peste très important dans le Haut Moyen-Âge, qui fait l'objet de réévaluations actuellement dans l'historiographie, la peste dite de Justinien, des 6e, 8e siècles, mais on en a oublié l'histoire, et cette nouvelle maladie donc fait l'objet d'une sorte d'objectivation du côté des médecins, c'est-à-dire en fait va générer toute une littérature pour la décrire, pour essayer de la soigner ou de la prévenir. Mais donc on voit que le terme est général, mais que l'on commence à comprendre qu'il s'agit de quelque chose, d'un phénomène neuf.
Qu'est-ce que cela nous dit, Claude Govard, du rôle du médecin en ce 14e siècle?
Alors, bon, écoutez, le rôle du médecin, il est évidemment important, et Marilyn vient de citer justement le nom d'un des plus célèbres. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a beaucoup de traités médicaux qui sont rédigés sur la peste, hein, plus de à peu près 300, je crois.
350
à peu près. Donc beaucoup de traités, mais à qui s'adresse-t-on? Et comment la population reçoit le message des médecins? Les médecins peuvent être appelés dans les familles, effectivement, qui sont déjà des familles des élites. Mais que disent-ils et que font-ils? Bon, ils ont des remèdes, mais des remèdes qui ne sont pas des remèdes miracles. En particulier si la forme est pulmonaire.
Il n'y a aucune chance d'en sortir.
Aucune chance de s'en sortir, à moins d'avoir eu un masque complètement étanche depuis le début jusqu'à la fin. Donc, voilà, la peste bubonique, on arrivait quand même à s'en sortir dans les proportions un petit peu plus, correctes.
20% de survivants.
Voilà, 20% à peu près. Mais alors, bon, que font les gens devant ce fléau? Au lieu, les populations ordinaires, que moi je connais mieux que les élites, les populations ordinaires, elles sont toujours demandeuses d'une mort en commun, en famille. La parenté est essentielle. Et je raconte souvent l'histoire de cette veuve Bourlet qui me taraude parce que elle a été agressée sur son étal parce qu'elle était une marchande. Elle rentre chez elle, on est dans la région de Reims, elle rentre chez elle, et puis elle se sent pas bien, les voisins lui disent « tu es bien pâle ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la route pour aller à Reims où vit sa famille, et elle a ce mot superbe « sur la route, la bête m'a prise ». La bête, c'est la peste. Et elle meurt, et le texte se termine en disant « et le même jour, un sien fils et sa mère sont morts dans la maison ». Donc voilà, il fallait qu'elle soit effectivement entourée des siens. Ça, c'est la réaction la plus normale, la plus fréquente. Et rares sont ceux qui, comme Boccace, ont dit « partons ». Le Décaméron, c'est l'histoire justement d'un retrait. Hein. Ou comme Guillaume de Machaut, chanoine de Reims, donc contemporain de ma veuve Bourret, eh bien, qui lui... « En ma maison m'enfermait », écrit-il, « et j'attends de voir ce qui va se passer ».
Ça pose deux questions, effectivement, celle de l'accès au médecin, mais aussi celle de cette identité du médecin Claude Gauvard, qui peut se situer dans un éventail qui va du plus sérieux au pur charlatan.
Moi, c'est Marilyn et pas Claude, hein, mais c'est pas grave.
Marilyn Nicou, bien sûr.
Non, c'est... Donc, l'identité du médecin, alors, ce que disait effectivement Claude Gauvard est juste, c'est-à-dire que ces traités s'adressent principalement aux élites. Ils s'adressent quand même aussi aux autorités publiques, hein, parce qu'un certain nombre de ces ouvrages sont soit commandés, le fameux célèbre avis de la faculté de médecine de Paris, qui est commandé par Philippe VI à la faculté, ou bien d'autres exemples que l'on peut trouver, où les médecins d'eux-mêmes s'adressent aux autorités publiques pour donner des conseils dont ils disent du reste qu'il faudrait les diffuser au sein de la population. Alors après, nous sommes dans des sociétés où effectivement le nombre d'alphabétisés ne permettait pas à tout le monde d'avoir accès à la connaissance médicale, mais n'oublions pas que nous sommes aussi dans un système, alors en particulier un milieu que je connais un petit peu mieux que le Royaume de France, qui est l'Italie, où s'est développé déjà, bien avant la peste, un embryon de ce qu'on pourrait pas appeler un système de santé, mais d'assistance par le recrutement de médecins par les cités, donc qui vise à assurer un minimum de services pour les plus pauvres en particulier, et qui font...
Oui. Alors justement, à ce propos, avant de vous entendre sur ce sujet, je voudrais vous faire entendre un texte, puisqu'une requête en ce sens, dans le sens de cette assistance publique, est adressée par les citadins de Sienne en 1396 aux autorités de la ville. De nombreux citoyens soulignent qu'il est nécessaire d'avoir un chirurgien médecin pour ce qu'il advient quotidiennement non seulement aux citoyens, mais aussi aux étrangers, et notamment aux mercenaires quand ils séjournent dans votre cité. On sait que lorsque de graves infortunes surviennent à vos citoyens, il faut faire chercher des médecins étrangers, qui réclament par jour 3 à 4, voire 5 florins, ce qui représente un fardeau insupportable pour les citadins et pour l'image de la commune, sans compter un risque de longue attente pour l'arrivée du médecin et entre-temps de mort pour des soins non appropriés. Aussi, pour l'honneur de votre cité, la santé et l'utilité de vos citoyens et habitants du Comtado, nous vous prions de faire décider et décréter de faire venir un médecin docteur en chirurgie, pour la période qui vous plaira, et que son salaire ne dépasse pas les 80 florins annuels au maximum. un texte rapporté par l'archiviste Lodovico S. Dekauer à la fin du 19e siècle. Alors justement, sur cette assistance médicale qui va se mettre en place, Marilyn Nicou, des médecins payés par la cité commencent à prendre en charge les plus pauvres.
Oui, alors en fait, c'est un système qui existait dans l'Antiquité, mais qui disparaît dans la période du Haut Moyen-Âge, et qu'on voit réapparaître en Italie au tournant des 12e, début du 13e siècle, dans un certain nombre de ces cités, de ces communes, hein, qui exerçaient le gouvernement de la ville et du contado, et qui décident un petit peu d'assurer un certain nombre de services. Donc, elles recrutent par exemple des maîtres d'école aussi pour les écoles de la ville. Elles recrutent aussi, pour certaines d'entre elles, des médecins, et parfois des médecins très célèbres. Un des exemples les plus anciens, c'est le recrutement de Taddeo Alderotti, qui était professeur à Padoue et qui est recruté par la cité de Venise, justement aussi pour donner des conseils contre les pestilences. On retrouve bien l'idée que ces pestilences, ce sont ces maladies épidémiques de manière beaucoup plus large que la peste. Et ça devient une figure un peu plus familière. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dirais pas, c'est-à-dire j'ai tendance à avoir un Moyen-Âge plus rose que généralement ne le présente. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une attention, un souci de la santé de la population, de la conservatio sanitatis, hein, de la conservation de la santé des habitants de la ville, que l'on voit apparaître dans toute une législation statutaire, à travers aussi ces mesures d'hygiène qui sont plus anciennes que la peste. Et donc le service d'un médecin communal, c'est un minimum de réponse, notamment pour les plus pauvres, puisque ceux-là ne paieront pas l'accès aux soins prodigués par les médecins. Et on voit bien là, dans la supplique qui vient d'être lu, que lorsqu'il n'y en a pas, eh bien, les populations en demandent. Ce qui veut dire aussi que l'on attend des médecins, peut-être, des choses un peu différentes de ce qu'on attend aujourd'hui. Peut-être pas automatiquement qu'ils soient en capacité de tout guérir, mais qu'ils soient là pour assurer un minimum de thérapie, un minimum de soins, quand bien même on saurait que cette maladie est létale et qu'ils n'ont pas automatiquement les connaissances nécessaires pour la guérir.
Corinne Leveleux, sur les prémices de cette politique sanitaire, pour être complètement anachronique.
Bah oui, enfin là, moi je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Marilyn. De toute façon, elle est beaucoup plus compétente que moi sur le domaine médical. Hein, il n'y a pas photo. Oui, c'est d'ailleurs c'est intéressant. Enfin, moi je faisais le parallèle entre une situation qu'on connaît bien en région Centre-Val de Loire, puisqu'il y a une pénurie de médecins. Et on voit bien aujourd'hui, alors évidemment c'est un contexte qui n'est pas du tout celui des pestilences médiévales, mais on voit bien que les communes reprennent la main et commencent à recruter des médecins, construisent des maisons de santé pluridisciplinaires. Donc finalement, ce besoin de santé publique, hein, cette idée que la santé n'appartient pas qu'aux individus, mais que c'est un bien commun, que c'est quelque chose dont procède finalement un bon gouvernement, on en retrouve hein, une forme de continuité entre nos médiévaux et puis finalement ce qu'on fait aujourd'hui dans des situations de crise sanitaire, mais aussi de crise du recrutement médical dans certaines zones.
Ce sont les épidémies qui permettent la naissance, l'émergence de cette assistance sanitaire, Claude Govard.
Oui, je dirais que ça permet aussi des mesures de police pour nettoyer la ville. Absolument. Tout simplement, Marilyn a parlé de l'hygiène, mais elle se traduit, par exemple à Paris, en ordonnance qui impose d'enlever les ordures. On voit apparaître le souci de la santé, oui. Interdiction de jeter les ordures dans la Seine. Hein, on sait que l'Hôtel Dieu était pourtant en bordure, hein, en bordure de la Seine, et qu'on jetait tous les excréments de l'autre côté, évidemment. Mais on a quand même un effort dans des villes qui n'étaient pas habituées à le faire, pour cette hygiène et la santé des habitants qui fait partie, cette hygiène, fait partie désormais de ce que les textes appellent l'honneur de la ville. L'honneur de la ville, ça consiste à avoir non pas seulement des murailles, non pas seulement de beaux édifices à l'intérieur, mais d'avoir des rues propres. Voilà. Ça, c'est un point qui me semble important. Le deuxième point, c'est aussi un point policier, c'est-à-dire qu'on va expulser, à partir surtout du 15e siècle, tous ceux qui menacent de transmettre la peste.
Politique sanitaire comme un moyen de contrôle.
Voilà, comme un moyen de contrôle. Et évidemment, d'abord les étrangers, forcément. Hein, voilà, tous ceux qu'on ne veut pas, et on expulse aussi les mendiants. Hein, et il y a donc une politique de fermeture. Hein, des villes qui peut aller jusqu'à, effectivement, l'expulsion de ceux qui sont malades. Hein, voilà. Donc, surtout quand ils n'appartiennent pas, ils ne sont pas citoyens de la ville.
Donc, des mesures qui sont prises, et de façon peut-être plus précoce, à Venise, à Florence, Marilyn Nicou, mais il faut attendre le 15e siècle pour que les municipalités prennent des mesures sévères d'isolement pour éviter la contamination ?
Alors, en fait, je pense que ce qui est... On attend aujourd'hui que les pouvoirs publics réagissent et trouvent la bonne réponse immédiatement. Et l'expérience du passé nous montre qu'il est bien difficile de trouver, face à un fléau qu'on ne connaît pas, la bonne réponse adaptée au moment. Donc, ce que l'on voit à l'aune de cette législation, à l'aune de la documentation, c'est que on n'a pas de mesure totalement immédiate au moment de l'épidémie, si ce n'est, comme le disait Corinne tout à l'heure, la gestion des sépultures, parce que tout simplement, il y a énormément de morts, et que l'on sait que les morts sont susceptibles d'empoisonner l'air, donc il faut se débarrasser des corps, donc il faut trouver ouvrir de nouvelles aires cimétériales, on fait éventuellement des enterrements un peu plus rapides, sans liturgie, donc il y a ce type de législation. Dans le cas, vous avez cité Florence, ou vous avez cité Venise, il y a des magistratures ad hoc qui sont créées, qui sont des magistratures assez exceptionnelles, le temps de la peste, où l'on désigne des magistrats qui d'ailleurs ne peuvent pas se dérober à la charge, et qui gèrent donc ces questions sanitaires dans l'urgence, et puis qui disparaissent quand l'épidémie repart. Mais on voit apparaître dans les mois qui suivent, dans certaines villes, et puis le mouvement va s'étendre, des formes de cordons sanitaires. On essaie de contrôler la mobilité des populations, ne plus être en contact avec les zones que l'on sait contaminées, parce qu'on était informé par un certain nombre de marchands, des échanges de lettres entre villes, de la situation dans d'autres régions. Et donc on ferme les villes, on les ferme aux personnes qui viennent de l'extérieur. On invente ce qu'on appellera en France, après à l'époque moderne, les patentes ou les bulletins de circulation qui existent en Italie dès la seconde moitié du XIVe siècle, où les gens, comme nous l'avons fait pendant le confinement, sauf que c'est nous-mêmes qui nous autorisions à sortir, et là c'est une magistrature qui dit que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez vous rendre dans telle ou telle ville, et que ce n'est valable que pour le moment où vous l'avez sur vous. Et puis ensuite on aura effectivement ces politiques d'isolement des malades considérés comme non pas personnes contact mais véritablement malades, donc soit chez eux, soit dans des lieux de quarantaine à l'extérieur de la cité, et qui deviendront à partir du XVe siècle, à Florence en particulier, et plus tard à Milan, les futurs lazarets.
Alors on l'a dit, cette grande peste et les différentes épidémies qui se succèdent au cours des 14e et 15e siècles ont un impact sur l'économie de ce Moyen-Âge. On a commencé à en parler, mais je voudrais vous entendre là-dessus, Claude Gauvard, sur les sources qui permettent de connaître cette histoire économique des 14e et 15e siècles.
C'est bien compliqué. Bien, écoutez, les sources ont fait... je dirais que c'est un faisceau de sources. Il y a d'abord les sources comptables, c'est-à-dire les sources fiscales, pour savoir et mesurer la population par feu, ce qui n'est déjà pas évident après de savoir combien il y a de personnes dans le feu. Enfin, on s'accorde à peu près pour 4,5. Mais ça peut être variable d'une ville à l'autre. Donc, on essaye de voir à travers les sources fiscales et Dieu merci, je dirais, l'impôt commence à se développer. Donc, on a de plus en plus d'archives de cet ordre-là. C'est grâce à cela que, par exemple, Madame Ingoulet-Ladal a travaillé sur Périgueux, vous voyez. Bon, il y a aussi les sources traditionnelles, rurales, c'est-à-dire les chartriers, pour faire vite, et sur lesquels, par exemple, Guy Bois a aussi travaillé pour la Normandie, en dehors des sources fiscales. Et puis vous avez des sources plus littéraires aussi, qui on n'a absolument pas négligé, et tant mieux d'ailleurs, parce que ce sont des sources qui peuvent vous raconter ce qui s'est passé au moment donné, et des correspondances de marchands aussi, très importantes.
Mais des sources qu'il faut peut-être prendre avec précaution, tant elles tendent à mettre en lumière en particulier un événement, un lieu, et peut-être qu'il n'a pas eu l'importance que nous on lui accorde à posteriori.
Mais quand vous recoupez, vous apercevez qu'à Giry, la moitié de la population a disparu. Quand vous regardez du côté de Périgueux, vous arrivez au même résultat. Quand vous arrivez en Normandie, où là les sources sont plus diverses, on va dire, et vous arrivez au même résultat, vous vous dites, alors attention, Froissart a raison, on lui a pas donné raison au départ quand il dit que c'est la moitié de la population, non, un tiers, pardon, de la population. Alors on a cherché, on a dit non, Froissart, c'est pas possible. Et puis en fait, on arrive à un tiers de la population, grosso modo. Et avec, dans certaines régions d'ailleurs, plus que cela. Mais il y a des régions épargnées aussi. Le Béarn. Allez savoir pourquoi le Béarn a été épargné par la peste. Et là, on a les mêmes sources, qui ont été étudiées très bien par un historien. Et effectivement, il y a une continuité démographique assez ahurissante. Alors, je sais bien, c'est un pays de montagne, un pays fermé. Il y a d'autres pays de montagne qui ont été touchés par la peste.
Cette question des sources, elle est d'autant plus importante, Corinne Leveleux, que cette histoire médiévale, elle est source de beaucoup de fantasmes. Il y a une véritable nécessité aussi à faire ce travail d'archiviste, d'historien, pour donner à voir ce qu'est le Moyen-Âge tardif.
Ah bah bien sûr, c'est le travail de tout historien, pas seulement les médiévaux, enfin ceux qui travaillent sur le Moyen Âge, hein. Mais c'est vrai que le Moyen Âge a une espèce de d'aura, d'image un peu folklorique, avec par exemple les danses macabres, ça a vraiment contribué aussi à donner cette idée d'une période un peu noire, un peu terrible. Donc bien sûr les sources sont un élément d'objectivation. Je voulais rajouter aussi à l'énumération de Claude les sources notariées. Parce que en fait, un des éléments de cet dramatique événement, ça a été des transferts fonciers considérables. Vous avez des familles entières qui ont été décimées, hein, et donc vous avez des terres, hein, qui ont changé de main. Et alors, et bien sûr, il y a toujours dans les crises, il y a toujours des vainqueurs et des vaincus. Et sans trahir un secret, hein, l'Église en est pas mal sortie.
Marlène Nicou, sur cette question aussi des sources et de la méthodologie.
Je rajouterais peut-être aussi à ces sources-là, toutes celles qui ont été précédemment évoquées, les sources également les mesures prises par les municipalités ou par les gouvernements. Je pense que tout à l'heure, Claude Gauvard a évoqué les législations. On peut penser pour le Royaume de France, mais elle en parlera bien mieux que moi, des réglementations de Jean de Lebon en 1352, les gouvernements de Castille, d'Aragon, d'Angleterre, mais également les municipalités dans les systèmes italiens qui ont pris des décisions pour essayer d'enrayer cette inflation, pour essayer d'enrayer également l'augmentation des salaires qui posait un certain nombre de problèmes, parce que les populations avaient tendance aussi à partir là où elles pouvaient gagner éventuellement plus d'argent. Donc toute la législation anglaise du milieu du XIVe siècle vise à imposer, y compris non seulement par des amendes, mais parfois par des châtiments corporels également, que les personnes qui travaillent la terre des grands propriétaires restent là où elles sont et ne puissent pas bouger. Donc un certain nombre de cités ont légiféré dans ce domaine et nous donnent une idée de des réactions, de la prise de mesure, hein, du phénomène face à cette chute de la main d'œuvre, face à cette augmentation des salaires, qui renvoie à une économie totalement transformée. Hein, les rentes s'effondrent, au contraire, donc la main-d'œuvre qualifiée manque, donc certaines d'entre elles prennent aussi des décisions qui visent à favoriser la migration en ville de populations qualifiées, hein, parce que certains métiers, les métiers de la laine, par exemple, hein, qui font la grandeur de la cité de Florence ou d'autres villes de Toscane, n'ont plus la main-d'œuvre pour faire travailler cet artisanat qui se commercialise à grande échelle. Et donc il y a toute cette législation qu'il faut également, dont il faut tenir compte et qui constitue les réponses que les gouvernements ont tenté d'apporter avec les moyens du bord pour gérer cette crise économique.
La hausse des salaires qu'évoque ici Marilyn Nicou est moins importante en France qu'en Angleterre, aussi à cause de cette destruction de l'appareil productif lié à la guerre, Claude Gauvard ?
Oui, alors je pense qu'il faut distinguer là la crise de court terme et la crise de long terme. C'est-à-dire qu'en court terme, effectivement, dans le Royaume de France, on a une flambée des salaires en 1348-1350, d'où l'ordonnance de Jean le Bon, qui fait suite au statut des travailleurs de 1349 en Angleterre. Ils ont été les premiers à émettre une ordonnance de ce type. Et ensuite, quand on regarde la courbe des salaires, elle reste en Angleterre élevée. On a parlé d'un âge d'or des travailleurs. En France, on a plutôt tendance à voir un tassement des salaires. L'explication qui avait été donnée par Édouard Perrois il y a très longtemps, c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est une explication qui me semble assez convaincante, à savoir que, en Angleterre, c'est un pays qui exporte ses armées, et la France reçoit la guerre. D'où, dit-il, une destruction de l'appareil de production. Dans ce contexte, effectivement, de guerre de siège dont je parlais tout à l'heure, on brûle les alentours, hein, les moulins sont détruits, les fours sont brûlés. On a des témoignages dans la région parisienne qui sont alors tout à fait probants, tout à fait conformes à ce que je suis en train de dire. Et on a un tassement, donc, un tassement des salaires. C'est donc, ça c'est sur le long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pestes à répétition peuvent provoquer des crises ponctuelles. Mais ça s'inscrit dans une évolution plus large, avec d'ailleurs aussi des reprises, des embellies, hein, comme vers 1400 par exemple. Hein.
Ce qu'on comprend bien, Claude Gauvard, c'est que la guerre, qui est une constante dans cette Europe des 14e et 15e siècles, avec des reprises, elle a des impacts économiques différents, le fait qu'il y a ce prélèvement fiscal sous la forme de l'impôt, qu'il soit royal ou urbain, le poids des rançons, donc il y a quand même un lien important entre cette guerre et cette crise économique.
La rançon, c'est un prélèvement énorme. Et qui la reçoit, la rançon? C'est l'Angleterre. Hein, après la bataille de Poitiers, par exemple. Vous voyez? Après Azincourt, de même. Donc vous êtes en 1356, vous êtes en 1415, vous voyez? La rançon, c'est l'exportation de métaux précieux, on va dire, vers le pays vainqueur. Mmh. Et ça joue beaucoup sur l'économie seigneuriale et paysanne, parce que qui paye la rançon? Le seigneur lui-même, quand même un peu, mais surtout, évidemment, les sujets sur lesquels il prélève.
Ce que l'on comprend, Marilyn Nicou, c'est que l'appauvrissement est moins lié aux pertes démographiques, qu'elles soient liées aux épidémies, qu'elles soient liées à la guerre, que peut-être effectivement à ces destructions et à l'impact purement économique de la guerre à travers ces rançons, ces prélèvements fiscaux.
Alors, moi, je pense que on ne peut pas séparer les deux. Hein. Les phénomènes sont parfaitement liés. Il y a d'un côté, de toute façon, comme le disait Corinne tout à l'heure, ceux qui vont s'enrichir, c'est-à-dire des héritiers dont les parents sont décédés et dont les frères sont morts et qui vont récupérer la totalité d'un héritage et se retrouver à la tête d'une exploitation bien plus grande que ce qu'ils auraient eu en situation normale. Il y a effectivement ceux qui vont profiter aussi de la cherté des prix et s'enrichir. Et puis, il y a les vaincus doublement de l'épidémie qui sont pour certains aussi ceux qui... parce que les législations visent à contraindre les salaires, finalement, et puis parce qu'il y a une inflation, donc la question peut se poser aussi de la différence, je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas historienne de l'économie, mais entre les salaires nominaux et les salaires réels, c'est-à-dire qu'on voit, c'est sûr, une augmentation des salaires nominaux, mais n'est-ce pas, dans certains cas, compensée par l'inflation qui fait que, bon, finalement, on ne gagne pas tant que ça. Et ce que disait aussi Claude Gauvard, me semble important, c'est d'avoir toujours en tête les temporalités, c'est-à-dire le moment de la crise épidémique, ces législations qui sont prises un peu dans l'urgence, dont on s'aperçoit dans certains cas d'ailleurs qu'elles ne vont durer que quelques mois, tandis que dans d'autres cités, on va les conserver pendant une quarantaine d'années, et voir sur le long terme d'une reprise qui est très différente suivant les pays. Je crois qu'on a la chance de pouvoir évoquer différents espaces. On peut comparer, mais en même temps, on n'a pas les mêmes résultats si l'on travaille sur l'Italie, sur la France, sur l'Angleterre, ou sur l'espace ibérique, c'est-à-dire il y a des endroits, il y a effectivement qui ont l'air d'avoir bénéficié hein, de la crise sur un assez long terme, et d'autres lieux qui en revanche ont stagné bien plus longtemps, même si on s'aperçoit globalement que la reprise, ça se manifeste surtout vers la fin du XVe siècle, aussi bien une reprise démographique qu'une reprise économique. Mais en même temps, il faut être très attentif aux temporalités et aux contextes régionaux.
Et ces difficultés économiques expliquent que soit mal vécu le développement de la fiscalité qui va de pair avec la consolidation de l'État à cette période, Corinne Leveleux.
C'est sûr. Bon, la fiscalité, c'est jamais une très bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est, je ne veux pas non plus. Bon, et c'est lié, mais en fait, ça revient tout ce qu'on a. Enfin, ça rejoint tout ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire que passé le moment du choc, enfin de la stupéfaction, de la sidération, à partir du moment où les autorités publiques commencent à prendre des mesures, on sent bien que le temps de la crise, c'est aussi un temps de renforcement, voilà, des autorités publiques. Hein. Et donc, ça c'est quand même assez général. Hein. Donc on a évoqué le cas des cités, on peut aussi évoquer le cas des États qui se réarment en fait hein, pour répondre à la crise. Alors qui se réarment de façon matérielle. Hein. On évoquait tout à l'heure des magistratures extraordinaires. On peut évoquer également hein, des offices hein, qui sont spécialement prévus hein, pour ces configurations-là. Et puis il y a aussi tout un appareil intellectuel, hein, tout un appareil théorique qui a été développé avec la Renaissance du droit romain, autour en particulier des notions d'état d'exception, qui sont l'équivalent médiéval de ce qu'on appelle nous l'état d'urgence, hein, mais c'est un petit peu le même mécanisme. C'est-à-dire en fait, on est dans une situation exceptionnelle qui justifie donc le recours à des moyens exceptionnels et qu'il faut bien financer. Et donc on est dans une espèce de trend hein, qui commence à ce moment-là, mais qui va se poursuivre par la suite, encore à l'époque moderne bien sûr, hein, où chaque crise, aussi profonde soit-elle, est un moteur hein, du développement de la puissance publique. Et donc la fiscalité, c'est un de ces éléments-là, la fiscalité qui commence à... Alors il y avait des, bien évidemment, avant le XIVe et le XVe siècle, hein, il y a eu des tentatives, en particulier avec Philippe le Bel, hein, pour imposer une fiscalité plus régulière, mais en gros, ça marchait jamais vraiment. C'était toujours considéré comme quelque chose de temporaire, lié à un besoin ponctuel. Hein, et là, l'effet cumulé des crises, hein, de la guerre, hein, où la France, effectivement, a été particulièrement touchée, hein, ça, je crois que c'est une période. Je dis souvent à mes étudiants, si un jour on invente la machine à remonter le temps, ne choisissez pas la fin du XIVe siècle en France. Hein. Enfin, ça, c'est une très mauvaise idée.
On retient le conseil.
Parce que c'est vraiment, vraiment une période difficile. Début du XVe aussi, hein, vraiment une cumul de crises, de guerres, un roi fou, enfin, la guerre civile. Enfin, bon, enfin, on a vraiment difficilement fait pire.
Et donc, cette administration, elle voilà. Se développe, c'est intéressant de souligner, paradoxalement grâce
exactement,
à ces épreuves.
Voilà. Et donc, il y a eu vraiment une extraordinaire réaction qui finalement produit un pouvoir plus fort qu'il ne l'était avant la crise. Voilà. Donc ça, c'est un peu un des paradoxes et je pense peut-être une des leçons de l'histoire, si tant est que l'histoire puisse donner des leçons, ce dont parfois je doute, hein, je le dis tout de suite ici. Mais en tout cas, il y a une constance de la tentation du contrôle et du renforcement des moyens publics d'intervention liés à la crise.
Claude Gauvard, sur cette consolidation de l'État.
Ah oui, ça, je souscris entièrement à ce que vient de dire Corinne Leveleux, surtout pour le Royaume de France, c'est très clair et très net. Toutes ces soubresauts hein, liés éventuellement à l'épidémie, mais aussi à tout le reste, comme on l'a dit, à cette crise, aboutit à un renforcement de l'État. Et je dirais que c'est très logique du point de vue, si vous voulez, du rapport même de force démographique. Il y a toujours autant d'officiers, même si on en crée moins. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, ça ne veut pas dire qu'il y a un arrêt de cette bureaucratisation galopante qu'avait connue la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Mais il y a un rapport de force entre le nombre d'officiers et la population qui est en faveur du nombre des officiers. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être tout autant prévaricateurs, mais ils sont surtout beaucoup plus nombreux. C'est pas moi qui parle, là, ce sont les textes qui les critiquent. Hein. Ils sont surtout beaucoup plus nombreux par rapport à la population restante. D'où l'impression d'être enserré dans un carcan hein, qui fait qu'on est obligé de payer hein, et on est obligé d'obéir. Alors, n'exagérons quand même pas tout à fait. Le nombre de sergents à Paris... 400 grosso modo, c'est pas énorme pour la population parisienne, mais quand même, c'est quand même beaucoup plus fort qu'à la fin qu'au début du XIVe siècle, où on avait à peu près dans la ville, on en est à 280 000 habitants à peu près, hein, actuellement dans les estimations, les dernières estimations données. On a à peu près 100 000 en 1400. Donc vous voyez, c'est quand même un rapport qui me semble jouer en faveur de l'État.
Alors après la peste, la vie reprend ses droits. Écoutez cet extrait de la chronique dite de Jean de Venette qui date de 1348 d'après la traduction de Colette Beaune.
Quand cessa cette épidémie, pestilence et mortalité, les hommes qui avaient survécu et les femmes se marièrent à l'envi. Les femmes qui restaient en ce monde conçurent plus d'enfants que d'ordinaire. Nul ne demeura stérile, mais toutes furent enceintes, et même nombreuses furent celles qui donnèrent naissance à des jumeaux, et quelques-unes à des triplés, qui vécurent. Mais, chose plus étonnante encore, les enfants nés après cette mortalité quand ils eurent l'âge d'avoir des dents, ils n'en eurent que 20 ou 22, au lieu de 32 en haut et en bas. Sur cette diminution du nombre de dents, je m'interroge beaucoup. Est-ce à dire que grâce à une telle mortalité qui fit disparaître un nombre infini d'hommes, et à ceux qui leur succédèrent ou survécurent, le monde et le siècle sont en quelque sorte renouvelés, comme si, en quelque sorte, advenait un nouvel âge? Mais hélas, cette rénovation du siècle n'a pas changé le monde en mieux, mais en pire.
Ce que l'on entend bien ici, Marilyn Nicoux, c'est cette volonté de conjurer la mort en donnant la vie au lendemain de la grande épidémie.
Oui, alors manifestement, un petit peu partout, on a vu des mariages avec les populations qui restaient, qui avaient survécu à la maladie. Donc même si sur le temps plus long, la saignée a été telle, hein, on a parlé tout à l'heure d'un tiers, la moitié, et certaines estimations vont jusqu'à plus de 60%, voire plus dans certains lieu hein, de la population qui a disparu. Donc on nous retrouvera vraiment les chiffres précédents qu'à la fin du 15e siècle. Donc la saignée a été très importante, mais on peut comprendre effectivement que les populations aient été tentées de retrouver, comme c'est normal au sortir de crise. Alors c'est cette peste, généralement, elle durait quelques mois. Hein, elle s'installait en ville entre 4, 5, 6 mois, parfois un petit peu plus, et puis elle disparaissait. Et ensuite, elle devient effectivement cette sorte de compagne familière de ces sociétés médiévales et modernes. Donc on s'habitue à se dire que finalement, elle risque de revenir. Et donc la vie reprend, la vie continue. C'est un petit peu normal. Ce qui me semble intéressant aussi dans le texte, c'est qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup interrogé sur, après le confinement, quel monde nous attend? Eh bien, c'est le monde d'hier que nous retrouvons aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi, finalement, ces crises transforment-elles véritablement nos comportements, nos habitudes, notre politique, nos sociétés?
Est-ce que cette crise transforme cette société, alors même que, effectivement, dans le sens où la Grande Peste a constitué ce traumatisme collectif, ce bouleversement de l'ordre de la société, Claude?
Alors, vous voyez, dans ce texte, que j'aime beaucoup ce texte, parce que c'est l'instinct de survie, quoi, d'une société qu'on peut reprendre pour nous-mêmes, y réfléchir. Bon. Il y a un mot, quand même. Il aurait voulu que le monde soit réformé. Et ça, je crois que c'est très important pour réfléchir. Est-ce que ces crises sont des prises de conscience qu'il faut réformer le monde? C'est un mot très à la mode au milieu du XIVe siècle, quand il écrit. Tout le monde, tous les grands penseurs du moment, les grands penseurs politiques, rêvent de réforme. Et derrière, on met beaucoup de choses. C'est très intéressant de comparer avec notre monde actuel. Donc, on a cette idée qu'il faut réformer le monde, mais que finalement, on n'y arrivera pas. Vous voyez ? Un défaitisme. Alors, on peut penser quand même que c'est, de sa part, une réflexion politique intéressante, plus intéressante que... Et ça, il n'en parle pas, là, dans ce passage, en tout cas, que de trouver des boucs émissaires, vous voyez, pour repartir. Or, c'est ce qui s'est passé avec la peste. On a trouvé des boucs émissaires. Hein. Les lépreux, il n'y en avait plus beaucoup. Donc, on s'est vengé sur les Juifs, qui, c'était surtout les Juifs, qui empoisonnaient les fontaines, hein, qui étaient montrés pour empoisonner les fontaines et qui ont été l'objet de massacres terribles.
Jusqu'à l'expulsion à la fin du XIVe.
Jusqu'à l'expulsion de 1394, qui est en filigrane, hein. Parce que vraiment, on arrive à cette expulsion, pas par hasard, mais parce que, à répétition, on a effectivement, massacré les Juifs et on les a pris pour des boucs émissaires. Alors, par ailleurs, on a aussi, et c'est là où il faut tempérer l'idée de la mort. Oui, ils vivent avec la mort, mais ça ne les empêche pas de survivre. Donc, les danses macabres, les transis, ça, si vous voulez, il faut les modérer dans l'interprétation que nous leur donnons, en pensant que c'est plutôt une préparation à la mort qu'une valorisation de la mort.
Vous parlez de réforme, Claude Gauvard, et ça nous emmène effectivement à ces mouvements de contestation qui surviennent au cours des XIVe et XVe siècles. On pense à la révolte du Beauvaisis de 1358, qui est emblématique parce que c'est une révolte de paysans aisés qui survient dans l'une des régions les plus riches d'Europe. On peut aussi évoquer le mouvement d'Étienne Marcel à Paris, qui laisse entendre qu'un régime différent est possible dans le royaume de France, Corinne Leveleux.
Oui,
Il y a une occasion manquée, en fait, à ce moment-là. D'autant qu'on avait, enfin, ça s'est passé ailleurs. Hein, il y a, si on prend l'exemple anglais, hein, parce qu'on avait un rapport, on va dire, très fort avec l'Angleterre, hein, seulement qu'on puisse dire. Donc en Angleterre, il y a eu des modifications de l'organisation du pouvoir hein, dès le XIIIe siècle, hein, qui ont permis en fait un dialogue entre le roi et une forme de représentation hein, qui s'est de plus en plus complexifiée par la suite. Mais disons qu'il y a l'émergence d'un dialogue politique dans un cadre qui est celui du Parlement anglais, hein, pour faire simple. Et en France. Du fait du développement économique. On évoquait tout à l'heure les temps de prospérité hein, du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, où il y a une bourgeoisie hein, qui aussi aspire, une petite noblesse hein, qui aspire à entrer finalement dans les sphères du pouvoir et à organiser aussi une forme d'échange politique. Hein. Or, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça aurait pu, mais ça n'a pas fonctionné. La France est restée un pays de tradition très puissamment monarchique. Et ce moment-là, effectivement, ce milieu du XIVe siècle après, on peut chercher les causes, hein, mais c'est une voie possible qui n'a pas été empruntée par notre pays. Voilà. Mmh.
Claude Gauvard.
Oui, ça n'est pas devenu une monarchie parlementaire. Voilà. C'est devenu une monarchie qui a glissé effectivement vers la reprise de pouvoir. Ça a été par des soubresauts là. On peut parler vraiment d'une reprise en main du roi à partir de 1440, hein, pas avant quand même. C'est plus compliqué que cela auparavant. Mais on a la reprise en main d'un roi qui s'adresse directement à ses sujets, sans corps intermédiaire. Il écoute leurs doléances. Il écoute les villes qui disent « Attendez, on ne peut plus continuer à payer l'impôt parce que nous sommes décimés par les maladies, nous avons été décimés par la guerre, etc. On vous demande, on vous requiert humblement, le mot est très important, des privilèges, des allègements. » Et le roi répond en acceptant, et par conséquent, il est le roi. Voilà.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Pour conclure, peut-être, Marilyn Nicou, est-ce qu'il faut voir cette peste noire comme un élément aggravant de la crise économique qui sévit en Europe à cette époque? Ou est-ce qu'il faut estimer, au contraire, à l'instar de certains historiens, quel est le point de départ de la grande divergence entre l'Orient qui commence à décliner et l'Occident qui se réveille avant même la révolution industrielle?
Alors, je suis une humble personne, pas du tout très, très bonne connaisseuse de ces questions, mais disons que c'est ce que disent un certain nombre d'historiens, spécialistes de l'économie, avec force graphique d'ailleurs, souvent pour nous montrer ces changements de conjoncture, notamment donc les prémices hein, d'un mouvement qui se serait beaucoup plus développé à l'époque moderne, de basculement effectivement, d'un essor de l'Europe. Par rapport à l'ancien monde oriental et dont la crise, une crise jaillit parfois un petit peu d'irrégalien là aussi, soit la crise est fatale et on ne s'en sort pas, soit au-delà de la crise on est purgé et finalement les humeurs superflues disparaissent du corps et on retrouve la santé. Et quelque part de cette crise serait né effectivement un mouvement émergent. On a parlé tout à l'heure, c'est pas de l'économie, c'est du politique, du renforcement de l'État. On voit que l'État intervient aussi dans des secteurs, je pense à ces monarchies sur lesquelles elles n'intervenaient pas jusqu'alors, c'est-à-dire le domaine de l'économie, alors que les municipalités le faisaient, hein, une gestion plus récurrente. Donc il y a une extension du domaine d'intervention de l'État et il y a sans doute effectivement le développement au terme d'une longue durée de crise malgré tout.
Un grand merci à toutes les trois, Claude Gauvard, Marilyn Nicou et Corinne Leveleux, de nous avoir emmenés à la découverte de cette histoire fascinante de l'économie médiévale. Les références de vos ouvrages, ou au moins de certains d'entre eux, car la liste est longue, sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission. Un immense merci à vous. Et merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho qui m'a aidé à préparer cette émission. Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Fabien Gosset, Georges Thau, Éric Audra et Jean-François Georges. On se quitte avec la version médiévale de One de Metallica par Starry Olza. La semaine prochaine, nous explorons l'économie chinoise en fiction en compagnie des œuvres du prix Nobel de littérature Mo Yan, du cinéaste Jia Zhangke et du réalisateur de documentaire Wang Bing. Une série à suivre à partir de mardi, mais d'abord c'est l'économie du ciel, ou plus exactement du secteur aérien que nous examinerons lundi. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end à l'écoute de France Culture.